Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonsoir. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Pour commenter cette actualité, je suis toujours en très bonne compagnie. Jean-François Mignard, de la Ligue des droits de l'homme et de tant d'autres endroits, puisqu'il voyage tout le temps, donc il doit faire quelque chose, mais on ne sait pas toujours quoi. Et Pierre Larouille, économiste, essayiste, rédacteur d'articles et de bien d'autres choses. Bon, ce soir, nous avons quatre sujets. Je ne sais pas si nous aurons le temps de les traiter, mais deux sujets principaux, et ça ne nous étonnera pas si je vous dis que nous allons commencer par le premier. Alors, on va parler des laboratoires pharmaceutiques et de leurs curieuses pratiques. En France, les médicaments remboursables représentent 90% de ceux vendus dans les pharmacies de ville. Vous le savez, un marché du médicament mondial qui s'élève à la somme considérable de 1104 milliards de dollars en 2016 et un marché qui est en augmentation de, 93% depuis 2005. C'est dire les enjeux colossaux qui sont ceux des industriels du secteur, lesquels industriels sont prêts à tout. Et on va le voir, pour vendre leurs marchandises, comme nous le détaille une excellente enquête, du moins excellent mensuel, Alternative économique, dans sa livraison de janvier. Notre pays est le cinquième du monde où se vendent le plus de médicaments. Et comme la Sécurité sociale rembourse la quasi-totalité des prescriptions médicales, le patient n'exerce bien évidemment aucun contrôle sur le coût de ce qu'il consomme. Là où il aurait un regard critique et responsable sur toute autre dépense qu'il effectuerait, en ce qui concerne le médicament, il en va tout autrement. Personne ne s'en préoccupe, comme le démontrent d'ailleurs abondamment les comptes de la Sécurité sociale. Et comme c'est donc open bar, comme l'on dit, les industriels du médicament s'en donnent à cœur joie. Les laboratoires mettent en œuvre des stratégies commerciales agressives et intrusives destinées à circonvenir le monde médical et ses acteurs, médecins, étudiants en médecine, professeurs et doyens des universités. Ils multiplient les interventions auprès de ces professionnels de santé ou qu'ils exercent, hôpitaux, cabinets des villes, cliniques, etc. Le but recherché, sinon affiché, étant bien évidemment de faire prescrire en priorité les fabrications du labo que l'on défend. Et pour cela, tous les moyens sont bons pour séduire et enjôler le praticien qui est d'ailleurs bien souvent prêt à se faire enjôler. Cadeaux, dîners, flatteries diverses, week-ends, voyages offerts, souvent sous couvert de formations bien orientées, comme vous en doutez, il y en a très peu à Dunkerque. Certes, il existe bien de timides tentatives d'endiguer ce jeu pervers de séduction commerciale, comme par exemple la loi dite anti-cadeau de 93, qui a été renforcée en 2011 à la suite du scandale du Mediator par la loi Bertrand, ou l'Association nationale des étudiants en médecine de France et le collectif appelé curieusement la Troupe du Rire, qui préconise aux étudiants de ne pas assister aux formations pendant l'internat ou de ne pas participer au buffet, voire de s'abstenir de signer le registre du labo qui permet à celui-ci de se constituer un très beau fichier. En matière de conflit d'intérêts, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la fameuse APHP dirigée par le non moins célèbre Martin Hirsch, est une pionnière dans notre pays. Elle a publié en mars 2016 un rapport préconisant une série d'actions destinées à prévenir ce que l'on pourrait qualifier de relations incestueuses. Ce qui n'empêche pas qu'au moins encore 73% des médecins de cette APHP entretiennent des liens d'intérêt avec les laboratoires. C'est dire l'étendue de la gangrène, laquelle touche particulièrement l'hôpital public qui est devenu sur le marché une cible stratégique de l'industrie du médicament. Une cible travaillée en profondeur et sans aucun scrupule éthique, le tout bien sûr au nom d'une pure logique financière. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque la politique et le prix du médicament sont décidés par la puissance publique. Il faut donc que les lobbying des labos s'investissent largement dans ce domaine, ce qu'il fait avec efficacité. Sachez que le prix des médicaments est fixé après une négociation entre l'entreprise pharmaceutique et le CEPS, entendez le Conseil économique des produits de santé. Et dans ce CEPS, combien y a-t-il d'emplois ? Il y en a 13, vous voyez, un sous-équipement, comme l'a signalé d'ailleurs la Cour des comptes, qui biaise la négociation qui se déroule dans un rapport de force notablement inégal. Et puis ensuite, il y a le monde politique qu'il faut séduire pour ne pas dire phagocyter. Sachez simplement, et je m'arrêterai là, qu'à l'Assemblée nationale, 5% des sièges sont occupés par les médecins et que 80% d'entre eux ont des liens déclarés avec des laboratoires pharmaceutiques. Des députés médecins, donc, qui occupent 15% des sièges de la Commission des affaires sociales et qui en occupe la moitié des postes à responsabilité. Et vous avez compris que cette fameuse commission, elle prépare les lois relatives à la politique de santé et au financement de la Sécu. Donc nous voilà dans ce monde merveilleux de la santé. Sur cette question, messieurs, qui veut commencer ? Alors, tout le monde a décidé que c'était Pierre Larouille, donc Pierre s'y colle.
Oui. Depuis la semaine dernière.
Oui, on ne prête qu'au Hirsch, puisque...
Oui, elle est très bonne. Oui,
tant
oui.
qu'on a la santé.
Oui, oui. Je ne sais pas, d'abord, après un édito comme ça, on n'a plus grand-chose à dire, Jacques Lavergne.
Vous voulez dire que je devrais faire l'émission tout seul, quoi, c'est ça.
Je crois que de temps en temps, ça serait effectivement une bonne chose. Néanmoins, moi, ce qui me trouble dans l'ensemble de cette industrie, c'est que c'est en fait une métaphore de la société contemporaine. Parce qu'on ne peut pas nier que depuis des dizaines d'années, nous vivons sur une sorte d'idéologie bien acceptée du médicament miracle. Et nous sommes quand même, en France, le plus gros consommateur européen, notamment d'anxiolytiques.
Les Italiens vont y arriver aussi, je pense, maintenant. Mais bon, on verra
ils sont bien
tard.
Partis, mais là, il y aura des raisons extrêmement valables. Alors, il y a quand même des... Pourquoi c'est une métaphore ? Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à un stade où, on le voit bien, il y a un doute généralisé qui va un peu tous azimuts. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste des sujets. Donc, je ne sais pas s'il faut vacciner ou pas. Mais je vois des gens qui sont visiblement bien informés et qui disent « Non, non, mais c'est un truc des labos. » Seulement après, on voit la rougeole qui réapparaît. Moi, je ne sais pas où est la vérité. Et ça pose la question de la complexité derrière cette industrie, mais comme derrière beaucoup de sujets que nous abordons. C'est que nous sommes maintenant sur une place publique planétaire où tout le monde échange des informations et où finalement le référent n'existe pas. Alors, il existe encore moins, effectivement, quand le lobby est assez puissant pour qu'on ne le croie plus, mais du coup, qui croire ? Donc, dans cette complexité, on ne s'en sort pas très bien. Il y a un troisième facteur qui correspond à une métaphore très jolie de notre période, qui s'appelle un déplacement international du problème. On voit le nombre de médicaments qui sont balancés, je dis ça comme ça, ce n'est pas balancer ton porc, mais c'est pire que ça presque, c'est vraiment balancer du médicament, on le sait, et de manière vraiment très souvent crapuleuse. Bref, on est réellement devant, d'un côté, une métaphore de la complexité de la vie d'aujourd'hui et de comment s'y retrouver. Alors, moi, comme j'aime bien certaines sources, moi, j'aimais bien l'idée nietzschéenne de la grande santé. La grande santé qu'on retrouve aujourd'hui autour de la médecine environnementale, de se dire que parler de la santé, c'est plus que parler du médicament et de la santé pure et dure. C'est parler de son environnement. C'est parler aussi, finalement, d'une sorte de bien-être, y compris sociologique, qui fait que tout ça est un configurateur de la grande santé. Et vous voyez donc que d'un côté, on a une sorte de retour à un peu de bon sens, et de l'autre côté, on a en face de nous une complexité et des habitudes qui ne nous permettent pas de nous y retrouver très facilement. Donc, je suis très, très dubitatif devant ces questions. Et
ce qui ne veut pas dire, comme disaient des proches, éjaculateur précoce, hein, je rappelle, dubitatif.
Je ne sais pas.
Pour introduire un peu de légèreté dans ce discours.
Oui, oui, non, mais je comprends très bien. J'allais d'ailleurs m'arrêter dans un coitus interruptus, oui. Puisque vous me le demandez si gentiment, Jacques.
Jean-François Mignard.
Oui, bon, plus prosaïquement, moi, je le prendrai à la surprise générale sur la question des droits généraux et particulièrement du droit à la santé. Avec, là aussi, je ne suis pas du tout un spécialiste, un économiste de la santé, mais l'impression, alors sur l'édito, bien sûr, il était parfait comme d'habitude, mais
il va y avoir de l'augmentation dans l'air.
Ah oui, ah oui, oui. On assiste quand même à la perversion d'une magnifique idée, au passage, autour de cette question qui est la question du médicament, qui est, rappelons-le, le droit à la santé pour tous, tel qu'on l'a construit en France, on va dire, pour faire un peu caricatural à la sortie de la guerre, avec la création de la sécurité sociale. C'est quand même une très belle invention qui garantit, qui a garanti pendant longtemps, effectivement, l'accès à la santé pour l'ensemble, si ce n'est l'ensemble de la population, du moins une sans commune mesure avec ce que ça avait pu être avant. Et c'est une perversion de ce dispositif-là, parce qu'effectivement, on mesure en quoi, à un moment donné. Et on parlera peut-être tout à l'heure au passage de la SNCF, hein, mais voilà. Comment, à un moment donné, quelque chose qui est de l'ordre d'une idée, d'une certaine manière de penser le droit et le droit pour tous, peut petit à petit devenir, effectivement, alors on va dire une possibilité de faire du profit de manière absolument éhontée, parce que ce qui a été dit tout à l'heure, je veux dire, c'est la... C'est la partie même un peu euphémisée de la situation, qui est une situation quand même assez sordide, parce que on parle de la santé, de la mort des gens, de ce point de vue-là. Hein. Et il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai voyagé avec une parlementaire qui est une ancienne parlementaire qui était très 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 mobilisée sur ce genre de questions et qui me témoignait, mais j'imagine que certains autres parlementaires peuvent le faire, hein, de la sauvagerie de ce milieu-là et de cette problématique-là, de la question qui est la question du médicament, des laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Alors, ce que dit Pierre Laroui me fait écho aussi. Hein, c'est devenu tellement opaque, sordide et dangereux, qu'on en arrive à des situations dans lesquelles, effectivement, le rapport aux médicaments lui-même en est perverti, ou la façon de produire de la santé publique. C'est l'histoire, bien sûr, des vaccinations, mais pas que. Hein, mais pas que. Voilà.
On a quand même eu quelques grands scandales sur le médicament. Oui. Il y a le Mediator qui est resté. Il y en a un autre qui sort là. On voit qu'à Marseille, on commence à s'agiter.
Oui, oui. Et tout le monde, et d'ailleurs, il y a une espèce de combat d'experts là-dessus aussi, qui fait qu'on voit apparaître des gens dont on ne savait pas les connaissances aussi pointues en termes de médicaments. Hein. Je serais charitable, je ne citerai pas de nom, mais moi, j'étais très surpris, sur l'affaire du Mediator, par exemple, hein, de voir des gens être extrêmement... Enfin, pardon, pas du Mediator, du Levothyrox, pour le coup, hein, être extrêmement tranchés sur ce genre de choses-là. Alors, il y en a toujours, effectivement, des gens très tranchés. Ce qui est des choses assez impressionnantes, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça... Il y a eu des échos et qu'aujourd'hui, les gens sont effectivement complètement largués par rapport à ce genre de choses... On a vraiment l'impression que, il faudrait arriver à basculer complètement cette espèce de système un peu pervers, qui est une des formes d'ailleurs de ce qu'on pourrait appeler quand même le partenariat public-privé, quand même. Hein. Je veux dire, on a d'un côté la sécurité sociale, qui est un dispositif, si ce n'est d'État, du moins public, parce que tout ce qui est public n'est pas forcément d'État, c'est aussi quelque chose qui est... Hein, et d'un autre côté, effectivement, tout ce qu'il y a de quand même mieux dans ce qui se fait sur le modèle, qui est le modèle capitalistique, on va dire, hein, avec des choses absolument scandaleuses, hein, qui ont qu'au nom d'un investissement factice dans la recherche et le développement...
Il n'est pas forcément toujours factice, quand même.
Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas général, mais quand même, c'est l'argumentation assez classique, effectivement.
Ce qu'on oppose au laboratoire, ça nous coûte très cher à mettre au
ça
point.
Ça nous coûte très cher parce qu'effectivement...
Ce n'est pas forcément faux, non.
Ce n'est pas forcément faux, mais quand on regarde par ailleurs l'amortissement dans le moyen et dans le long terme des investissements en termes d'études et de développement... On peut se poser des questions sur le fait, effectivement, que c'est ça qui justifie le prix, qui est le prix des médicaments, qu'on va effectivement vendre de manière absolument, d'ailleurs, effroyable en Afrique, avec ça aussi quelque chose qui ne nous touche pas trop, mais qui est l'inégalité de traitement et l'inégalité de traitement d'accès aux médicaments, c'est-à-dire à la lutte contre la maladie et la mort, entre nous, société civilisée, et effectivement, par exemple, les Africains. Il ne s'agit pas de culpabiliser de ce point de vue-là. Hein. Il ne s'agit pas de dire... Nous n'aurions qu'à nous taire, puisqu'après tout, on est moins mal lotis que les Africains. Mais tout ça est pris dans le même, et dans le même système de fonctionnement.
Pierre Larouille.
Oui, c'était simplement pour finir après l'intervention.
La déprogérie.
Oui, non, sur le plan industriel aujourd'hui, il y a quand même deux grands axes dans ce problème-là. Il y a un axe qui est la concentration. Je crois qu'on voit qu'il y a un certain nombre de laboratoires, il y en a ici dans la région, qui sont pourtant des laboratoires remarquables, qui aujourd'hui ont renoncé, laboratoires femmes, ont renoncé à produire de nouveaux médicaments. Ça devient de plus en plus concentré, donc on voit aussi vers quoi ça va. Et de l'autre côté, il y a un déplacement total de la problématique de santé vers l'intelligence artificielle. À ce sujet, voir le remarquable article du Nouvel Observateur, l'interview de Cédric Villani là-dessus, qui est très, très pondéré en termes à la fois d'espoir et de crainte.
Rappelons quand même qui est Cédric Villani, au cas où certains auditeurs ne le connaîtraient pas encore.
Le fait qu'il est député et un très grand mathématicien français, il est aussi chargé de la mission sur le développement de l'intelligence artificielle qu'il va rendre, je crois, dans un rapport qu'il va rendre fin mars, et dont on peut-être attendre une grosse surprise dans les décisions de l'État là-dessus, parce que finalement, c'est un gros enjeu.
Jean-François Mignard.
Non, on touche à un monde là qui est un monde, on découvre un monde qui est un monde extrêmement bien structuré, qui est celui plus généralement de la santé. Donc, il me semble que dans la mesure effectivement où la solvabilisation des dépenses est assurée par quelque chose jusqu'à présent qui est relativement solide, autour de ça, c'est organisé, se sont organisés un certain nombre. Alors tout à l'heure, on parlait de lobbying du côté du médicament. Dans la santé, il y en a un paquet. Sur un modèle, alors on parle du lobbying, sur un modèle effectivement qui est un modèle de type anglo-saxon, c'est-à-dire que l'intérêt général, c'est l'addition des intérêts particuliers, là pour le coup, comme disait l'autre, et où les principes fondateurs de ce qui a été, encore une fois, quand même un gigantesque progrès, sont en train d'être minés par une logique qui est une logique effectivement complètement différente, qui n'est pas celle de l'intérêt général ou de l'intérêt public, qui fondait effectivement.
Le système globalement fonctionne bien, mais il y a quand même de grandes perversions qui nous coûtent très cher. Oui. Comment se fait-il que l'État ne régule pas un peu l'activité de ces laboratoires? Quand je vous dis pour faire valider un médicament, vous avez 13 fonctionnaires qui vont se pencher sur la question pour négocier et valider, mais surtout négocier le prix de ce médicament. On voit bien quand même que la puissance publique ne veut pas y mettre les moyens. C'est dérangeant.
Il y a une première réponse à ce sujet, c'est le problème de la différence d'horizon temporel entre un politique et un médicament. Et ça, c'est un vrai problème, parce que demander à des politiques de raisonner à 25 ans ou à 20 ans, ce n'est pas très simple.
Oui, après, il y a des politiques qui sont d'excellents suppositoires, mais effectivement, c'est un peu compliqué pour les faire raisonner longtemps. Mais
ça a été évoqué tout à l'heure aussi. La question c'est aussi la question qui est la question de l'expertise de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand on voit les décisions, la manière dont elles sont prises, et les conflits d'intérêts directs ou indirects qu'il peut y avoir sur les modalités de prise de décision, c'est-à-dire que les personnes qui prennent les décisions. Quand ce n'est pas les personnes qui sont les vecteurs de la distribution des médicaments, mais au moins les gens qui sont censés prendre les décisions, quand on voit le degré de cousinage professionnel qu'il peut y avoir.
C'est gentil, cousinage.
Oui, oui. Alors, je dis non, direct ou indirect, parce que ces gens-là ne sont pas plus bêtes que la moyenne, c'est-à-dire que ça ne va jamais être aussi direct que ça. C'est effectivement pas étonnant que les politiques puissent être entre guillemets avec peut-être un poil de complaisance en fumée par des gens qui sont des gens qui sont gagnés effectivement par les industriels du médicament.
On se fait enfumer au début dans une situation. Maintenant tout cela est clair, ça a été dit, ça a été écrit, tout le monde le sait. Tout le monde le subodore parfois parce qu'on voit des choses un peu surprenantes, mais on sait quelle est la clé de la décision. Comment se fait-il que rien ne se passe? Pourquoi? personne ne me répond. Pourquoi vous n'avez pas de réponse?
On se demandait si c'était une question.
Oui, c'est une question. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le politique aujourd'hui? Après,
pourquoi Jacques Lavergne nous la pose à nous en plus? Mais bon, parce qu'il faudrait l'appeler.
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas véritablement. C'est un peu comme le contrôle fiscal. On sait que. Ou plutôt l'évasion fiscale. On sait comment ça fonctionne.
Peut-être. Alors je vais répondre. Je sais que ça peut paraître un peu comme ça. Je vais répondre par une phrase de Karl Marx. Une fois n'est pas coutume.
Non, allons-y.
C'est que l'humanité ne se pose que les questions qu'elle peut résoudre. C'est-à-dire, aujourd'hui...
Non, très bien.
Voilà. J'ai l'impression, et si je dis ça, c'est parce que, y compris, c'est pas que l'impression, c'est ce que je crois entendre, et des fois que j'entends directement des politiques, alors des politiques, encore une fois, des décideurs, on va dire, hein, qui seraient de dire, de toute façon, on n'a pas de meilleure solution que celle qui existe. Hein, et dans la mesure où on n'a pas effectivement d'alternative à ce qui existe,
qu'il faille changer le système ou qu'il faille le bousculer complètement. On dit simplement qu'il faudrait peut-être un peu le moraliser, qu'il faudrait qu'on ne soit pas jugé parti et qu'il faudrait.
C'est difficile, c'est quand même difficile aujourd'hui que les politiques moralisent quelque chose, non?
Enfin, vous êtes un peu injuste. Moi, en parlant d'une. Alors, pour le coup, d'un contexte dans lequel, en plus, j'étais en fonction, mais moi, je me souviens, il y a 20 ans, du rapport Béraud, qui était très, très précis hein, sur les médicaments, qui a donné lieu ensuite, avec la Mutualité française, à beaucoup d'actions sur le générique, et qui sont passées dans les faits. On a remis en cause... C'est très complexe, parce que c'est multifacette, mais de dire qu'il ne se passe rien, je crois qu'effectivement, c'est tellement complexe que le ballon est un peu glissant, mais il y a quand même de temps en temps des tentatives, mais réguler l'ensemble est très vite très complexe, parce qu'on a des problématiques industrielles, puis de recherche, puis d'emploi, puis de concurrence internationale, parce que ces labos sont aussi, en général, pas seulement... dans le médicament.
Oui, bien sûr. Moi, j'imagine qu'il doit y avoir, comme à d'autres endroits, le chantage à l'emploi, le chantage à la délocalisation. Hein,
Enfin, il est quand même très fort pour supprimer des services, des hôpitaux, des maternités. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire.
Oui.
Pour aller contrer les laboratoires qui vendent des médicaments à des prix parfois tout à fait prohibitifs, qui n'ont aucune relation avec leur coût de fabrication, leur coût de mise au point. Là, on ne voit rien se passer.
Il faudra les faibles avec les forts. Vieux dicton quand même qui en bout de course quand les gens sont coincés est quand même assez pratiqué dans la décision publique.
Ça veut dire ça
peut... derrière la sagesse.
Je
ne dis plus le prénom.
Il est très porté sur l'adage ce soir, mais enfin bon.
J'arrête.
Moi, je trouve quand même, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je trouve que la puissance publique joue pas son rôle et qu'elle n'arbitre pas. Oui. On a un système fabuleux. Vous l'avez dit. D'abord, il y a le droit à la santé, mais on a depuis la fin de la guerre, on a un système absolument fabuleux. On risque de se le faire.
On est en train de,
voilà,
d'une façon ou d'une autre,
de se le faire détruire. C'est quand même difficile de se faire soigner en France, on le sait. Pourquoi ? Parce que il manque de sous partout. Hein. Regardez les salaires dérisoires des infirmières par rapport à leur utilité sociale et technique. Regardez un peu dans les hôpitaux comment ça se passe. Les jeunes médecins qui font des dizaines d'heures de garde. Et on dit, il n'y a pas d'argent. Mais l'argent, où il est passé ? Est-ce qu'il ne passe pas là où il ne devrait pas forcément aller? En partie peut-être, mais pas autant.
Allez, je vais me lancer. La réponse est oui.
C'est ce que disait Woody Allen. Hein. La réponse est oui, mais rappelez-moi donc la question.
Oui, bien sûr que visiblement, l'argent passe ailleurs. Et visiblement, au-delà de quelques améliorations, mais devant les scandales à répétition, par ailleurs, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Alors, peut-être avec... Peut-être ce qui est en train d'aller mieux, puisque ça va mieux dans notre émission, c'est la transparence par rapport à ça. C'est-à-dire que...
On y vient petit à petit.
Voilà.
Tout à l'heure, Martin Hirsch qui a essayé au niveau de la PHP de Paris, qui a fait il a mis des choses en place, hein, très nettement. Il est rentré quand même dans le système. Encore, c'est pas parfait, hein, on en est loin.
Ah, bien sûr.
73%, j'ai dit, je crois, tout à l'heure, de mémoire, j'ai dit que des médecins avaient encore des relations qui étaient un peu incestueuses avec cette industrie. Bien, écoutez, je vois que ça vous laisse absolument.
Non, mais
c'est indignez-vous quoi, de quelqu'un que M. Essel, qui avait participé d'ailleurs à la mise en place de ce système à l'époque.
Oui, bien sûr.
Si, mais quand même,
tout à fait. Mais le. Ouais. C'est, c'est, euh, Il me semble qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, la cohabitation incestueuse de logiques qui sont des logiques dans lesquelles, effectivement, de façon parasitaire, un des aspects tue l'autre. Hein, c'est-à-dire que l'industrie du médicament, si on y prend garde, va contribuer, ce n'est pas le seul élément, à tuer cette magnifique idée qu'est la sécurité sociale.
Alors, quand va-t-il prendre ton garde et qui va y prendre garde ? Je ne pense pas que ce soit le gouvernement actuel aujourd'hui qui va monter au créneau.
Je le crains. Je crains qu'il ne monte pas effectivement au créneau. Mais bon, voilà. Ça voudrait dire effectivement des décisions qui sont des décisions qui marquent politiquement les gens qui les prennent. Et on est dans un tel contexte aujourd'hui dans lequel la dimension symbolique, politico-symbolique de la décision est tellement éloignée de la réalité des faits que les politiques ne s'amusent plus à ce genre de choses-là parce qu'ils se retrouveraient marqués suivant les anciennes normes. En gros, il faudrait une politique de gauche.
Bon, on ne voit pas qu'ils équipent l'affaire, donc on va passer à un autre sujet, celui-là ayant été quelque peu épuisé. Donc je vous propose de parler de la SNCF et de ce fameux rapport Spinetta, dont nous n'avons pas fini d'entendre parler. Alors, après les lois travail dont Macron et son gouvernement entendent s'attaquer à la réforme de notre bastion, qui pour le coup est lui aussi très français, très symbolique, c'est la SNCF. Et il le fait à l'occasion de la remise du rapport Spinetta, qui fait le tour de la question, qui préconise un certain nombre de mesures, sans pour autant d'ailleurs chiffrer le coût d'une éventuelle réforme, ce qui ne va pas être simple. Hein. Donc c'est un dossier d'abord historique, parce que la SNCF c'est l'histoire, c'est un dossier ensuite touffu d'une grande complexité, une espèce de millefeuille qu'on va avoir beaucoup de mal à faire évoluer. Alors la couche de base du millefeuille, c'est le fameux statut des cheminots, un statut protecteur certes, mais c'est sa contrepartie, il est quand même extrêmement coûteux aujourd'hui. C'est un statut qui a été créé il y a quasiment 100 ans, 1920, au moment de la machine à vapeur, lorsque la SNCF n'existait pas et qu'il fallait attirer les personnels pour venir un peu conduire ces trains. Donc il fallait faire un peu la différence, parce qu'à l'époque, il y avait, je crois, des compagnies privées.
Compagnie du Midi.
Voilà, par exemple, entre autres. Et donc on a dit, on va faire une SNCF à la française et il fallait faire venir ses salariés. Donc ça surprotège tous ces salariés, mais il faut quand même noter que certains connaissent la pénibilité, mais d'une part, la pénibilité n'est pas partagée par tous. Ceux qui sont dans les bureaux, ceux-là, ils n'ont pas un travail plus pénible que dans d'autres bureaux. Et puis, dans notre pays, il existe bien d'autres métiers aussi pénibles, voire plus, qui ne bénéficient pas de pareils privilèges, sans oublier que ce statut est revalorisé en permanence. Il a une mécanique un peu exponentielle. Alors, autre couche du millefeuille, et non des moindres, le coût de construction et d'exploitation des lignes TGV, donc entièrement supporté par la SNCF, ce qui est une curiosité, parce que l'État aurait dû, c'est de l'aménagement du territoire, l'État aurait dû le prendre en charge, assumer ce financement, et c'est de là que vient la majeure partie de la dette de la compagnie, et puis une dette qui s'est considérablement accrue sous la présidence de Sarkozy, puisqu'à l'époque, on faisait une ligne tous les 5 ans, et Sarkozy, dans sa folie des grandeurs, a dit, ben oui, on va en faire 4 durant mon mandat. Alors, c'était déjà assez irresponsable, on en paye le prix, mais la deuxième responsabilité, et Jean-François Mignard, on l'avait un peu abordé tout à l'heure, a été accrue par le mode de financement qui a été choisi, à savoir le partenariat public-privé, qui revient aujourd'hui à faire payer des sommes considérables en termes de péage à la SNCF. Et les heureux bénéficiaires, bien sûr, ce sont M. Bouygues, M. Vinci et M. Zeffage, au détriment des contribuables que nous sommes. Ensuite, il y a la problématique du fret, qui est un échec absolu. Moi, je me souviens, quand Mitterrand a été élu, c'est de vous dire mon âge, je me souviens de... On avait dit, ça y est, le ferroviaire, tout va passer, il n'y aura plus de camions sur les routes. Et bien, c'est un échec absolu, puisque le fret a quasiment disparu sur les lignes de la SNCF aujourd'hui. Ce sont les camions qui l'ont remplacé. Je crois d'ailleurs que la SNCF est peut-être le plus gros transporteur de France par certaines de ses filiales, donc coût écologique, humain et matériel que vous pouvez imaginer. Et alors, lorsque Guillaume Pepy, il y a 10 ans, parce que ça fait un moment qu'il est là, garçon, a tenté une réforme de ce fret pour essayer de le sauver, de le développer, il y avait un millier de conducteurs qui étaient volontaires pour l'assumer, parce que c'était quand même un peu spécifique. Et la CGT et Sudrail se sont aussitôt mis en grève.
Et puis, bon, avec toujours la même rhétorique, ce qui fait que ça a provoqué le retrait de la réforme et puis la catastrophe que l'on peut aujourd'hui constater. Donc, il y en a un peu pour tout le monde dans ce dossier.
Je vois que c'est l'édito équilibré, comme on dit.
Oui, celui-là est équilibré, l'autre était moins. Non, alors, on a notre nouveau dossier, c'est les petites lignes. Parce que la société d'exploitation, alors, qui s'appelle SNCF Mobilité, parce que... Il y en a une autre qui s'appelle, alors qui elle, s'occupe des exploitations rail. Puis ensuite, il y a un établissement public qui chapeaute les deux. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, SNCF Mobilité se concentre essentiellement sur les lignes TGV et sur les liaisons entre les grandes métropoles desservies par le TER. Et les petites lignes, maintenant, c'est des trains ou c'est des cars, peut-être Macron, je ne sais pas, ce n'est pas une réussite. C'est selon, ces petites lignes ont été refilées, si vous me passez l'expression, aux régions qui se font un peu racketter par la SNCF. Et là-dessus, je vous renvoie au dernier article, la dernière livraison, là aussi, je parle toujours de dernière livraison, mais du Canard enchaîné, qui a fait un peu le buzz avec un article assez sympathique que vous avez peut-être vu sur le coût qui est facturé par la SNCF aux régions. Alors, vous floquez un train, enfin, des wagons, 100 000 euros, etc. Bon, tout va. On marge un peu quand même sur les régions. Il faut bien que la SNCF se vive. On a vu qu'elle était quand même en mauvaise posture. Alors, ces petites lignes, c'est un point sensible, parce que politiquement, quand même, ça touche tout le monde. Donc, le gouvernement a fait marche arrière. Donc, il a jeté du lest. On pourrait se poser, mais ce n'est pas le jeu aujourd'hui, et peut-être qu'on le fera un jour, se poser la question de savoir si un service public doit être rentable. Parce que ça nous amènerait plus loin, mais un jour, on va en parler tous ensemble. C'est un beau sujet.
C'est une question extrêmement intéressante.
Voilà. C'est un problème du curseur.
Oui, voilà, il y a beaucoup de choses à dire en même temps, comme dirait l'autre. Donc la SNCF, elle ne va pas si mal que ça. Elle a augmenté son chiffre d'affaires, elle a multiplié son bénéfice par 2,3, c'est pas mal. Par contre, elle doit faire face à une dette de 46 milliards d'euros. Et tout cela au moment où elle va se préparer à l'ouverture à la concurrence, parce que fin 2019, l'ouverture de la concurrence sur les TER et 2020 pour les TGV. Alors, est-ce qu'elle va réussir sa mutation, sa conversion ? La Poste l'a fait il y a 10 ans, elle l'a réussi à peu près. On verra. Par contre, ce qui est certain, c'est que là, Macron veut se servir des ordonnances une énième fois. Ce qui est quand même curieux de légiférer par ordonnance, si je puis dire, puisqu'il a une majorité qui est quand même pléthorique et une assemblée qui est à sa botte. Donc on peut se poser un peu de questions. Et comme le disait un professeur de droit constitutionnel...
C'était pas au programme.
Et que c'était pas au programme. Enfin, bon. Et que vous avez connu...
Le fait que ce soit pas au programme est quand même plus problématique aussi.
On va en parler. Vous vous souvenez de Guy Carcassonne, qui était un professeur de droit constitutionnel éminent, et qui disait... Voilà, pour faire de bonnes lois, on n'a trouvé pas mieux que le Parlement, ce qui est vrai. Et donc voilà, cette bataille du rail, je voulais en terminer par là, risque d'être cette fois-ci une bataille d'opinion. Donc sur cette question véritablement complexe, au moins autant que celle que nous avons abordée tout à l'heure, qui veut attaquer le sujet ? Pierre Larouille a déjà ouvert la bouche, donc je pense qu'il est prêt.
Oui, on peut toujours être. Je respirais simplement, mais
d'abord. Vous ne manquez pas d'air, mon cher.
D'abord, je ne sais pas, une seule remarque, parce que je vois partout que Spinetta est une créature monstrueuse du libéralisme contemporain. Moi, je l'ai connu directeur des collèges d'Alain Savary, et il était loin d'être ça. On peut changer, mais je crois surtout qu'il a fait, un rapport sur commande un peu provocant, mais. Qui n'est pas forcément l'ensemble de sa pensée. Non, mais je crois qu'encore une fois, l'édito est remarquable, c'est-à-dire qu'on mélange tout.
On mélange tout, il n'en sort rien, voilà. Il y a des compliments qui tuent comme
in
ça.
In cauda est venenum.
C'est ça, oui. C'est
ça. Non, mais parce que on passe... prenons l'histoire de la SNCF ces derniers temps, elle est quand même... On se souvient déjà qu'il y a eu un site remarquable de billetterie qui globalement n'a pas fonctionné pendant plusieurs années, a coûté une fortune, qui a été refait trois fois. Je ne dirai pas quelles entreprises étaient derrière, parce que ce sont des gens très bien par ailleurs, mais bon, en tout cas, ça n'a pas marché. Tout le monde sait depuis des années qu'on n'entretient pas et que l'addition s'accroît. On sait que à la SNCF, comme à la Poste, d'ailleurs.
Oui, puis moins on entretient, plus ça se dégrade et plus ça coûte après. Donc c'est là aussi un peu la fuite en avant.
On entretient la vitrine. On a entretenu la vitrine.
Les TGV.
La vitrine Cocorico avait la complicité de quelques syndicats, d'ailleurs.
Oui. C'était très précis sur ce sujet, qui en savait beaucoup. Je crois aussi que la SNCF, comme la Poste avec Amazon, n'a pas pris le tournant du numérique au bon moment et assez vite, et on est encore très loin de ce qu'elle pourrait et devrait faire en termes de services. Bref, il y a quand même des problèmes internes dans la gestion de la SNCF qui ne sont pas anodins. Ceci pour dire qu'effectivement, l'Europe pose un problème à la SNCF, mais ce n'est quand même pas seulement un problème de l'Europe. C'est aussi un problème de la SNCF. Et troisième temps, on en vient évidemment à la question que posait Jacques Lavergne. Alors, puisqu'on ne l'évoque pas aujourd'hui, je ne le fais que l'évoquer, puisqu'on ne la traite pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'entends des débats télévisés où on dit, ouais, en fait, à partir du moment où c'est un service public, on s'en fout que ça soit rentable. Non, mais ça, on peut comprendre qu'on ne soit pas dans des critères de rentabilité normaux. Je ne pense pas pour autant que ça puisse être un puits sans fond dans lequel il n'y a pas de calcul économique. Ou alors, c'est une vision un peu particulière du statut. Donc voilà, alors à la fin, tout ça, ça pose le problème de l'État actionnaire, de comment on remodernise l'ensemble de ces services publics, avec effectivement des choses très ancrées sur le statut, qui, à mon sens, va devenir effectivement la pierre angulaire des luttes, mais qui n'est sûrement pas le vrai sujet de la réforme. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Donc, en fait, si on parle de statut, la vraie question, elle n'est d'ailleurs pas celle des cheminots, puisqu'ils ne sont pas concernés. Ce ne sont que les futurs, si j'ai bien compris, qui le seront. Oui. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que les statuts définitivement doivent être dans le marbre, ou est-ce que, effectivement, là aussi, on peut faire du service public en modifiant les statuts. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, ça, c'est un vrai débat.
Ça veut dire politique. Aussi peut-être qu'après ce ballon d'essai sur ce statut-là, on va attaquer d'autres statuts. Par exemple, le statut de la fonction publique. On sent bien de temps en temps, il y a une espèce de ballon d'essai qui est lancé.
C'est parti du côté des enseignants, par exemple.
Jean-François Mignard.
Oui, deux ou trois remarques. D'abord, moi, je n'ai pas d'animosité particulière vis-à-vis de M. Spinetta, que je ne connais pas. Et a priori, moi, je fais plutôt confiance aux gens, une fois, mais après, il ne faut pas. Je n'ai pas lu dans le détail le rapport Spinetta, mais je ne suis pas sûr que les gens autour de la table l'aient lu ici, donc je vais pouvoir me permettre. J'ai quand même regardé un certain nombre de choses.
Non, je ne l'ai pas lu, je vous le dis de suite.
Ah, bah voilà,
temps m'a manqué, mais
ça me rassure.
Mais voilà. C'est pas dit qu'on n'aille pas le voir un jour quand même.
Ouais, alors moi j'ai regardé un peu quand même, voilà, pas dans le détail, mais au moins le contenu, les différents éléments du contenu. Je ne suis pas du tout sûr personnellement que le rapport Spinetta fasse le tour de la question. Le rapport Spinetta fait le tour de la question en termes comptables.
Et il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffrage dans le rapport.
En termes financiers, en termes de gestion, par exemple, il fait une impasse absolument faramineuse sur la question des impacts écologiques, des enjeux autour de cette question-là. Il a mis quelques lignes en début de rapport, et puis tout ça passe sous la table derrière. Hein. Autrement dit, on est vraiment, moi je trouve, mais encore une fois, je vais me permettre de juger de manière un peu exorbitante, parce que je ne suis pas un expert, mais après tout, hein, je suis citoyen comme les autres. Je trouve quand même que c'est vraiment... Alors pour le coup, c'est un rapport de fonctionnaire d'autorité, technocrate, sur cette question-là, mais... c'est pour ça, de mon point de vue, que sans aucun problème, semble-t-il, il envisage le fait qu'on ferme les petites lignes. Parce que c'est vrai. C'est vrai que dans le discours, qui est le discours purement de rationalisation et gestionnaire, ces trucs-là, hein, le discours qu'on entend classiquement, il y en a marre de faire voyager des fauteuils vides, est un discours qui peut s'entendre. Sauf que, ça renvoie à des questions qui sont des questions... Alors, on en parle souvent.
Ça veut simplement peut-être dire que tous les fauteuils ne sont pas vides, que le train est surdimensionné par rapport aux besoins.
Oui, et que la question du développement local et du territoire, ça a à voir aussi avec la question qui est la question du déplacement. Voilà. Que, encore une fois, l'impact écologique, etc., etc. Voilà. Donc, déjà, moi, sur le rapport Spinetta, Et c'est vrai que ça ressemble quand même à quelque chose de l'ordre d'un rapport sur commande qui vient effectivement s'inscrire dans quelque chose. Alors, moi, je suis assez stupéfait. L'histoire des ordonnances, après tout, les ordonnances, ça fait partie des règles du jeu. Hein. Moi, ça me... Mais qu'on règle ces questions-là, alors que c'est un débat qu'on a, par exemple, jamais eu dans le débat qui est le débat électoral, la question du statut, de la SNCF ou des trucs comme ça, et qu'on le fasse par cours d'ordonnance, ça, moi, ça me pose un problème, qu'un problème de, j'ai envie de dire de démocratie. Voilà. Alors, ça me fait venir un troisième point. Enfin, c'est articulé tout ça quand même.
Oui, on voit bien que votre pensée est complexe.
Ah oui, oui, complexe, tout à fait. Le c'est que le conflit qui vient n'est pas le conflit, me semble-t-il, du statut des agents de la SNCF, dont le coût. Là aussi, il faudrait quand même aller regarder du côté du coût, de qui paye effectivement le statut, avec quelles contraintes et tout ça.
Je crois que ce n'est pas le problème aujourd'hui.
Je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui est en train de se passer, c'est un conflit purement politique, pour le coup, sous un prétexte qui est un prétexte technocratique, c'est-à-dire que et on voit que les bataillons commencent à se mettre en ordre de marche, et je ne sais pas trop, moi, comment cette chose-là va sortir. Je pense qu'on va mal en sortir. Je pense qu'on va mal en sortir. On risque certainement. Mais là, je suis gonflé parce que c'est une émission qui a vocation normalement à se répéter. Donc, ce que je vais dire va.
On vous le rappellera.
Je n'en doute pas. Parce que là-dedans, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire évoluer la question de la SNCF avec le statut des agents à l'intérieur. Et au passage, je dis ça parce que mon grand-père était cheminot, donc je suis un peu touché. Ah oui, complètement. Mais parce qu'on n'arrivera certainement, me semble-t-il, pas à... Parce que c'est encore une fois, c'est pris de manière à la fois partielle et très politique, politicienne, et que si effectivement on arrive à démanteler le statut de la fonction, le statut des cheminots ou des employés de la SNCF, il se profile effectivement derrière, et c'est dans les tuyaux, le démantèlement du statut des fonctionnaires, du côté des enseignants, on commence à parler de statut de droit privé ou des choses comme ça, et je pense que ça coûtera très très cher politiquement. Et on risque de parler d'Italie tout à l'heure. Je pense que ça coûtera très cher politiquement.
Est-ce que cette histoire de statut, c'est quand même un peu l'arbre qui cache la forêt? C'est pas le problème C'est un des problèmes financiers de la SNCF. Il y en a d'autres. Par exemple, on m'a dit que j'avais parlé de trop de choses, mais il y a quelque chose que j'ai pas abordé, c'est le coût du billet. Vous savez combien coûte 100 km en France, en moyenne? C'est 7 euros. Au Danemark, c'est 30 euros. C'est encore plus cher en Allemagne et en Italie. Donc il y a aussi cette problématique-là. Je parlais de millefeuille. Il y a effectivement une millefeuille de problèmes. Et le statut, ils servent un peu de bouc émissaire, là, nos amis cheminots.
Bien, par ailleurs, que ça coûte si peu cher parce que ça permet déjà de se déplacer.
Oui, mais attention, tout ça, ça coûte peu cher. Si, ça coûte très cher parce que celui qui paye le billet le paye peut-être moins.
Gratuit,
mais comme c'est nous, contribuables, qui payons le reste... là aussi, il y a quand même un petit problème. Pierre Larouille.
Au cas où ça serait trop simple, je vais rajouter encore sur l'empreinte écologique. On a un sujet, c'est que la décision d'aujourd'hui n'est pas forcément la bonne dans 20 ans.
Oui.
On peut peut-être supprimer des choses qui vont devenir très stratégiques dans 20 ans. Donc ça, c'est effectivement, aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont au cœur de mutations extrêmement importantes, de contradictions extrêmement importantes. Et qui sont effectivement, comme le disait Mignard, en fait un débat politique qui n'a pas été posé, qui est difficile à poser et qui, de toute façon, coûtera effectivement très cher politiquement, d'une manière ou d'une autre.
Et à qui?
Peut-être à tout le monde.
Oui, peut-être à tout le monde. Oui. Bon, écoutez, affaire à suivre, de toute façon, on y reviendra, on verra si les prévisions, les prédictions... Jean-François Mignard se met, on peut craindre qu'effectivement tout cela soit avéré. Alors, autre sujet, on va regarder un peu vers l'extérieur du pays, l'Italie. Donc, les Italiens ont voté. Nous avions dressé ici même le panorama un peu de cette votation, comme disent les Suisses. On ne s'est pas trompé beaucoup quand même, là, par contre. Hein, la droite populiste des 5 étoiles, ils sont arrivés en tête, les Cinque Stelle, suivi de la Ligue, donc, qui est le FN local, pour faire bref, c'est pas mieux. Cette ligue a fait mieux que le parti de Berlusconi, qui est une droite dure, mais un peu plus classique, on va dire. Peut-être à la Wauquiez, je ne sais pas si ce type de parallèle est vraiment pertinent. Et puis, bon dernier.
Je ne sais pas pour qui c'est un compliment.
Et puis, bon dernier, je n'ai pas dit un compliment, j'ai dit pertinent, mais ce n'est pas un compliment non plus. Et puis, bon dernier, le parti démocrate qui est au pouvoir jusque-là, ce qui fait que Matteo Renzi, qui a pris quand même une grosse claque, a dit je vais démissionner. On ne sait pas vraiment s'il va totalement démissionner, mais enfin, il en a manifesté le désir. Alors, aucun de ces partis ne peut prétendre gouverner aujourd'hui, puisque tout ça est quand même assez morcelé. Les tractations vont durer plusieurs semaines. C'est le président de la République qui fera le choix, de toute façon. On peut dire quand même une chose, on l'avait déjà dit ici il y a 15 jours, c'est que l'Europe n'a pas beaucoup aidé l'Italie, comme elle n'a pas non plus à l'époque aidé la Grèce d'ailleurs.
Et les résultats sont là aujourd'hui. Les Italiens sont devenus eurosceptiques et ils ont accueilli à bras ouverts le populisme, qui c'est quelque chose d'ailleurs qui se répand assez facilement en Europe aujourd'hui. Sur cette problématique.
Je vais laisser Mignard développer parce qu'il connaît bien. J'étais simplement hier soir, j'étais assez étonné parce que, on l'avait dit d'ailleurs dans l'émission précédente ici, on était tous rivés sur le problème des migrants et de la responsabilité électorale que pèse ce douloureux sujet. Et j'entendais hier soir que les analystes étaient plus nuancés et ils disaient que le déséquilibre, la fracture territoriale avec le Sud avait aussi énormément joué, au moins autant que ces phénomènes.
D'ailleurs, quand on voit la carte électorale, oui, c'est assez...
L'Italie est divisée en trois. Le nord, on sait le où centre. Il va. Le centre, qui est plutôt justement de centre démocrate. Hein, oui, oui. Et le sud, Bébé Griot, qui a fait des promesses en leur parlant. Autant, alors, il ne l'appelle pas comme ça, mais du revenu universel un peu. Hein, c'est un peu l'esprit. Question sur laquelle nous avons d'ailleurs projet aussi de revenir ici un peu plus longuement. Jean-François Mignard.
J'ai entendu. Non, parce que encore une fois, on a un peu l'herbe coupée sous les pieds par la qualité de l'édito. Mais
non, mais il va me faire une proposition malhonnête un de ces jours.
Je vous en prie. J'ai entendu. Alors, oui. Que rajouter ça sur le fait que on a quand même l'impression d'un jeu de domino, enfin d'effet domino concernant la montée de l'euro scepticisme, hein, la montée d'un appel comme ça au populisme. Hein. Encore une fois, on avait eu un débat, il fut un temps sur ce terme-là, donc ce serait intéressant qu'une fois on le reprenne quand même, parce que c'est un concept politique un peu mou. J'ai écouté, comme on dit, les chroniqueurs là-dessus et tout, et j'ai été frappé par quelqu'un qu'on faisait réagir là-dessus, dont ce n'est pas du tout la spécialité, qui est une psychanalyste, dont on peut penser ce qu'on veut, qui s'appelle Madame Roudinesco, effectivement, et qui a dit hier quelque chose, je crois que c'était hier, ben ça m'a accroché l'oreille, parce que elle a mis un mot un peu quelque chose que je ressens. Hein. Elle dit il y a comme un désir de fascisme. Hein. Ce qui se passe en Italie renvoie à quelque chose de... Alors, elle s'est expliquée... Je pense qu'elle l'a dit de manière non polémique, je pense qu'elle l'a dit de manière froidement politique, au sens de quand elle a... Et je partage ça, quand elle a expliqué que, somme toute, voilà, on retrouvait quand même, c'était pas de nazisme dont on parlait, mais de quelque chose, quand on regarde les promesses qui sont faites et ce qui risque d'arriver, une forte intervention de l'État, quand même, hein, et à côté, voilà, on retrouve ce discours-là, qui est un discours qui chez nous existe aussi. Voilà.
Mais écoutez, vous allez retrouver cette question tout à l'heure, puisque va suivre, après notre émission, Ciao Italia, que j'aurai le plaisir d'animer aussi avec trois journalistes italiens. Je pense que nous reviendrons largement sur cette problématique. Alors, dernière question.
On n'a pas droit à la parole sur ce sujet.
Si,
finalement.
Si. Vous...
Mais Roudinesco est intervenu aussi sur la SNCF.
Vous êtes exprimé. Ben, écoutez, on l'invite.
Je l'ai pas entendu.
C'était pour sortir du sujet.
C'était parce que c'est une spécialiste du transfert, par contre.
Oui, sinon, bravo.
Bon, passons. Alors, quatrième sujet, brièvement, hein, mais le SPD, Angela Merkel, pardon. Donc, le SPD a approuvé la coalition avec les conservateurs d'Angela Merkel, ce qui n'était pas gagné au départ. Hein. L'enjeu était quand même assez crucial pour la première économie européenne. Au moment où l'Europe a d'autres soucis, ben elle est secouée par la montée du nationalisme, on vient de l'évoquer, par la crise du Brexit, et on a quand même besoin d'un exécutif solide en Allemagne. Donc c'est une victoire qui ouvre la voie de nouveau à une grosse coalition.
Oui. Sous l'œil attentif de Kevin Kernest, parce qu'il y a du tiers quand même du SPD qui a voté contre, et essentiellement les jeunes. Hein, ce que les gens n'ont pas relevé, mais la partie qui est la partie la plus, peut-être la plus dynamique quand même, hein, du SPD, a voté contre et en gros a dit on attend de voir. Voilà. Je pense que c'est un élément qui est un élément. Ça s'est quand même fait sacrément dans la douleur du côté du SPD. Hein, Et alors bon, le problème, c'est le problème de la social-démocratie partout en Europe, qui dans certains endroits est au-delà de la souffrance, hein, et qui est encore dans le registre de la souffrance en Allemagne, mais voilà.
Alors ça justement, c'est intéressant parce que c'est commun aux social-démocraties. Merkel l'autre jour expliquait les raisons de son échec aux législatives. Et elle a cité en second, et c'était assez surprenant, la crainte devant le progrès technique. Vous savez, ici que c'est mon dada, donc je...
Vous l'enfourchez.
Pour une fois, Merkel faisait la promotion de mes propres doutes.
En plus, on peut y aller avec l'Allemagne, puisque l'Italie, c'est pas bon pour nous ce soir.
Donc. Voilà.
Non, ça va m'être reproché, ça.
Non, mais je crois que c'est un vrai sujet, et pour le coup, ça va valoir la peine, effectivement, que dans le débat qui va s'ouvrir, parce qu'il va y avoir un débat sans doute assez fort entre l'SPD et Mme Merkel, je crois que ces sujets ont intérêt à être posés, parce que je crois qu'effectivement, la problématique de l'humanisme et de nos valeurs est posée au travers de ce sujet. On vit quand même dans une société qui est excessivement anxiogène, et c'est assez curieux de voir, au moment où on arrive au cinquantenaire de 68, comment on n'est pas passé de... On est dans deux sociétés qui mutent, la société de consommation, aujourd'hui la société numérique. La première, vous vous souvenez, il y avait un mot-clé que Vincent Bonté, d'ailleurs, avait retraduit dans son édito célèbre du Monde, c'est « la France s'ennuie », le mot de l'ennui. Et l'ennui, ça traduit un désir, ça traduit un désir d'intensité. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que ce qui domine, hélas, c'est l'anxiété, c'est la peur du futur. Et c'est effectivement, devant cette société qui mute, une crainte dont on ne voit pas le désir émerger. Et ça, c'est un vrai sujet pour la social-démocratie, parce que sinon, pour le coup, ils n'auront rien à dire.
Bien, le temps est venu de notre avant-dernière séquence, le « ça va mieux », toujours compliqué dans ce monde de brut. Alors moi, mon ça va mieux, ben, j'ai la parole, je la garde, vous savez que c'est mon privilège d'animateur. Donc ce qui m'a fait plaisir, mais qui me pose quand même question, c'est une nouvelle condamnation du préfet des Alpes-Maritimes qui s'est fait retoquer par le tribunal administratif pour sa politique illégale de reconduite des mineurs à la frontière. Je crois que ça fait la quatrième fois qu'il se fait retoquer. Donc quelque part, c'est bien que nous ayons des magistrats qui disent le droit. Par ailleurs, c'est quand même curieux qu'un haut fonctionnaire de ce niveau viole systématiquement toute conscience les lois de la République sans qu'on ne lui dise rien. Alors, de là à penser qu'il est aux ordres, ce serait peut-être exagéré. Mais tout de même, enfin, en tout cas, il a été condamné et ses reconduites ont été annulées. Et
un préfet aux ordres, ça serait énorme.
Oui, ce serait quand même la première fois que nous le verrions, effectivement. Pierre Larouille.
Oh, ben pour rester dans le sujet, je dirais que ben pour une fois en France, il y a une réforme qui est sur les rails.
Oh, très bien. Compliment.
Je passe un tour, je jette l'éponge. Ça va vraiment pas mieux cette semaine.
Ouais, c'est quand même curieux hein, qu'on n'arrive pas à voir des points positifs.
Bon, c'est un problème de médicaments, je crois.
Peut-être qu'il va falloir changer les médicaments.
C'est euphorisant. Je manque de Prozac.
Ouais, bah, écoutez, on va y penser, Prozac ou autre chose. Alors, dernière séquence qui est le conseil culturel, entre guillemets. Alors, vous connaissez, pour ma part, hein, je conserve toujours cette fameuse parole, vous connaissez l'hebdomadaire Le 1, qui est un hebdomadaire excellent. Et si vous ne le connaissez pas, découvrez-le vite. Et si vous l'aimez, et s'il vous convient, et je vois mal qu'il puisse ne pas convenir, il faut s'abonner. Alors, il faut s'abonner pourquoi ? Bon, d'abord, parce qu'il faut soutenir la presse et les journaux. Mais là, au cas particulier, on arrive au numéro 200 sur le 1. Il y a 20 000 abonnés, je crois. 35 000 numéros en circulation. Donc, c'est une affaire qui marche, on peut dire. Et Presstalis, vous savez, ce diffuseur-là qui a le monopole de la diffusion de la presse écrite en France, eh bien, Presstalis, on va dire le mot, il rackette actuellement le 1, qui est un journal totalement indépendant. Il a prélevé en décembre 25% de ses recettes. Il a fait pareil en janvier. Et puis, tout à fait unilatéralement, il a dit « Maintenant, je retiendrai 2,25% du chiffre d'affaires jusqu'à 1922 parce que vous m'inquiétez un peu, vous avez peut-être un risque de faillite. » Alors, je trouve ça assez scandaleux déjà. Bon, on sait qui est Presstalis, c'est le monopole qu'il exerce et qui, parfois, est un monopole là, très pernicieux. On peut tuer un journal de qualité et on peut se demander où est la liberté de la presse. Donc, le 1,
c'est bien fait, c'est bien écrit. Toutes les semaines, un sujet unique et différent, bien sûr, et illustré par plusieurs points de vue. C'est vraiment une bonne manière de ça se lit très vite, un format très, très original. Donc, abonnez-vous, hein, soutenez-le, hein. Vous ne le regretterez pas. Qui c'est qui prend la suite, Jean-François Mignard?
Allez, complètement différemment, conseiller culturel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça à Toulouse, et ça se remet en place. Il va y avoir du jazz. Moi, j'aime ça, bon, donc... Donc je vous conseille d'aller à Toulouse en Jazz, qui est le nouveau festival qui normalement devrait se renouveler, hein, du 22 au 24 mars au Sing Sing, chemin de la Flambert, si vous voulez swinguer.
Ah, le Sing Sing, qu'est-ce que c'est, une boîte de nuit? C'est
Oui, c'est une boîte, ouais.
De l'époque, non, j'imagine. Pierre Larouille.
Ben, hier soir, le plaisir en dehors de sa beauté, d'écouter Carole Bouquet dans son interview parler du cinéma français.
C'était dimanche soir, non? Pas
hier. Oui, dimanche soir, effectivement. Pourquoi je parle de ça? Parce que d'abord, c'est bien que le cinéma français aille bien, mais c'est bien surtout parce qu'il faut se souvenir que quand justement les politiques mènent une action culturelle forte, comme l'acception culturelle l'a été en plusieurs fois en France, et notamment sur le cinéma, eh bien ça prouve que ça a des conséquences, qu'in fine, on nous envie notre statut dans le monde entier, et que ça permet effectivement de diffuser une image et une réflexion excessivement positive.
Il y a plein de statuts qu'on nous envie dans ce pays.
Oui, alors c'est vrai que notre cinéma, il y a le cinéma américain, il y a le cinéma français qui vient juste derrière, après il y a le cinéma indien, mais qui n'est fait que pour des connaisseurs, hein. Bollywood, c'est quand même très très particulier. Mais est-ce qu'il va toujours être dans cette si bonne santé? N'oublions pas la part prépondérante qu'avait Canal+ dans l'industrie du cinéma. On sait aujourd'hui comment et par qui Canal+ est drivé. On voit les pitoyables résultats, parce que ça s'écroule. Hein, par moment, il peut être très en forme. Il a encore des soubresauts, l'ami Mignard. Donc oui, qu'est-ce que ça va devenir? On voit les bras de fer qu'il y a avec TF1, par exemple, etc. Bon, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Il faut quand même rester attentif à tout ça.
L'investissement dans le cinéma est une bonne chose pour Canal et donc pour ses propriétaires, je pense. Je ne pense pas qu'ils s'en plaignent.
Peut-être meilleur que d'autres secteurs qui sont un peu en déshérence, mais peut-être l'ont-ils aussi bien cherché. Eh bien, messieurs, merci. Jean-François Mignard, Pierre Larouille, c'était une émission de Jacques Lavergne, avec à la réalisation manette Jean-Loup Arzac. J'accroche son nom. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook d'Occitanie Première ainsi que sur le site internet de celle-ci. Nous nous retrouvons bien sûr dans 15 jours pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Belle soirée à toutes et à tous.